Bonjour Pascal Maître.
Bonjour.
Bienvenue sur l'antenne, sur les ondes plutôt que sur les images pour une fois.
Oui, 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 mais je suis ravi de participer à une émission radio car je suis un fanat de la radio.
Ça, c'est une bonne chose déjà quand on commence comme ça. Alors, Pascal Maître, comment on vous présente? Est-ce qu'on dit journaliste, photographe, photographe, journaliste?
À vrai dire, photojournaliste. Pour une raison, dans photojournaliste, il y a deux mots. Il y a photo et journaliste. Et avant tout, je pensais être un journaliste. Je travaille essentiellement pour la presse. Et donc, je me sens avant tout concerné par les histoires que je fais.
Alors c'était effectivement la question, c'était est-ce que c'est l'envie de témoigner qui est venue avant l'envie de faire des images ou est-ce que c'est l'envie de témoigner en images?
Non, je pense qu'au tout départ, c'est la photographie quand même qui m'intéresse. Et puis après, j'ai eu envie de voyager et ça s'est fait. Et très rapidement, en 1978, je suis rentré au journal Jeune Afrique où j'étais embauché. Donc, j'ai participé aux conférences de rédaction. Et une fois par semaine, lorsque je ne voyageais pas, j'avais une double page ouverte où je pouvais proposer des reportages d'autres photographes. Donc, j'amenais différents reportages. Et là, très vite, on m'a remis à ma place. On m'a dit, écoute, ce sont des jolies photos, mais pourquoi on les publierait? Et quoi? Et donc là, très vite, j'ai commencé à comprendre les raisons d'une publication, ses besoins. Donc, et après, j'ai voyagé avec des journalistes africains. Donc, très rapidement, j'ai été plongé dans l'Afrique, mais aussi j'ai été plongé dans le contact direct avec des journalistes. Donc, ça m'a formé sur le point journaliste.
L'image, le goût de l'autre aussi, le goût de la découverte, c'est quelque chose qui vient de l'enfance ou c'est venu petit à petit?
Je crois que c'est venu assez tôt. Et puis moi, je suis originaire de Buzancec, une petite ville dans le Berry. Et comme beaucoup de gens de ma génération et de cette région, on avait surtout envie de partir, de voir ailleurs. Et donc il y avait cette envie de partir. Et la photographie me transcendait, l'image me perturbait un peu, me donnait des émotions. Donc voilà. Et je n'avais envie de faire que cela. Donc ça a été très simple.
Ça, c'est une chance.
Ah oui, c'est vraiment une chance. Parce que j'ai fait des études de psychologie que je n'ai pas totalement terminées. Je n'ai pas fait ma troisième année. Parce qu'à ce moment-là, j'ai consacré tout mon temps à la photographie. Et après, j'ai eu la chance de faire de mon rêve d'en faire ma vie, quoi.
Alors effectivement, on parle de photojournalisme. Enfin, c'est vous avez travaillé pour National Geographic, pour Elle, pour Le Figaro, pour Stern, pour Géo, etc. Donc oui. Vraiment des très très grandes publications. Est-ce que ce sont toujours des commandes ou est-ce que c'est vous qui proposez des sujets?
Alors, quand j'ai, il y a, je dirais, une vingtaine d'années, c'était surtout des commandes. Et puis, tout doucement, d'abord, les journaux ont eu moins de moyens, donc il y a eu moins de commandes. Et tout doucement, j'ai eu moi-même des envies assez précises. Et pratiquement toujours, j'ai eu la chance que les journaux, quelqu'un me suive lorsque je voulais faire un travail sur un thème. Et donc, je dirais aujourd'hui, c'est 20% de commandes peut-être et 80% qui partent d'envie que j'ai ou de sentiment que c'est urgent ou important de traiter d'un thème.
À l'heure du web, à l'heure où tout va vite, où tout est consommable et consommable zapping, la photo, le journalisme de reportage, vraiment, c'est au contraire, c'est un temps plus long. C'est un temps où on se pose. Est-ce qu'il y a encore toute la place ou est-ce que vous sentez que parfois c'est un petit peu compliqué?
C'est plus compliqué, il y a moins de moyens. Mais si vous avez une idée, un propos intéressant, moi j'arrive à trouver encore des moyens de les faire. Il y a, alors, c'est plus limité, c'est-à-dire on est moins nombreux à pouvoir le faire et il y a peut-être moins de titres qui vont le faire, mais je pense qu'il y a toujours la place. Si vous avez une bonne idée, un vrai propos journalistique sur un sujet, vous pouvez encore trouver du répondant. Mais évidemment, c'est un peu plus compliqué. Hein.
Alors, vous êtes voilà, vous êtes l'invité d'honneur de cette.
J'ai beaucoup de chance.
C'est cette 20e édition.
Eh oui, je devais l'être l'an passé déjà, mais malheureusement avec le Covid, ça a été annulé. Et donc là, on recommence cette année. Et c'est vrai que c'est un grand plaisir, un grand honneur d'être l'invité d'honneur et de découvrir Chabeuil et de découvrir ce festival. C'est assez inouï, cette mise en place, ce nombre d'expositions, ce travail très sérieux, très professionnel, c'est formidable.
Alors vous êtes là avec une exposition qui s'appelle « Les Afriques ».
Oui, parce que l'exposition étant prévue l'année dernière, qui était l'année en France de l'Afrique. Donc elle rentrait dans ce contexte-là. Et comme ça a été reporté un an, on est resté sur... je ferai une conférence où là, je parlerai plus généralement de mon travail et je ne parlerai pas que de l'Afrique. Je parlerai entre autres de l'Afghanistan que je connais très bien.
Alors effectivement, ça c'est une... On y viendra après parce que malheureusement, c'est une actualité douloureuse. Mais pour revenir sur cette exposition Les Afriques, ce sont des images qui ont été prises au fur et à mesure de votre carrière ou est-ce que c'est vraiment une exposition que vous avez imaginée
Non, je travaille pour la presse, donc toutes ces photographies qui sont exposées ont été publiées dans la presse. Pour moi, c'est essentiel, c'est la base de mon travail, c'est la presse. Après, dans une exposition comme celle-ci, je sors des images qui sont plus photographiques, qui sont plus liées à mon travail sur couleurs, sur d'autres éléments, et qui sont plus des photos d'exposition. Mais au départ, elles ont toutes été faites lors de reportages qui ont été publiés dans la presse.
Parler de couleurs, effectivement, ça c'est vraiment le fil rouge de cette exposition. Et puis c'est l'Afrique de la mort à la vie. C'est très impressionnant.
Oui, alors la couleur, c'est si j'ai une particularité dans mon travail, c'est la couleur. C'est-à-dire la couleur, la peinture m'a toujours beaucoup touché et j'ai toujours essayé de travailler sur la couleur, pas d'une manière d'illustration, mais que la couleur me serve dans la création et surtout qu'elle me permette de soutenir le propos que je veux dire. Et ça, pour moi, c'est essentiel. C'est quelque chose qui me transcende, la couleur. Et donc, j'ai beaucoup travaillé sur cette base-là.
Ça se ressent.
Oui, oui. Bon, et l'autre chose par rapport... Lorsque j'ai intitulé « Les Afriques », alors en général, les photographes qui travaillent par exemple sur l'Afrique vont travailler sur un thème. C'est-à-dire, il y a les photographes animaliers, vous avez des photographes de paysages, vous avez des photographes de guerre, vous avez des photographes qui travaillent sur les ethnies. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir travailler sur tous ces éléments et lorsque je le remets ensemble, toutes ces choses se passent au même endroit. C'est-à-dire, l'environnement, la nature va dicter le mode de vie, va dicter les traditions, va dicter s'il y a des conflits, il y a des raisons précises. Donc, tout cela est un tout. Et donc, comme j'ai eu la chance d'aborder ces différents thèmes, j'aime bien les remettre dans un seul bloc, parce que finalement, c'est ça la réalité.
Ça donne un véritable voyage. Oui. On rentre dans cette exposition, on ne ressort pas de la même manière.
Bon, je n'ai pas encore vu. Elle n'était pas finie d'installer.
Non, mais voilà, moi, c'est des photos que j'ai découvertes, pour certaines que je connaissais, pour d'autres pas du tout. Et puis de les voir mises en scène aussi.
Oui, et puis le lieu est très beau. Le lieu est très beau. Et comme c'est un lieu très grand, j'ai préféré exposer des grands formats parce que le lieu s'y prête vraiment. Quoi.
Et on entre vraiment, on est en immersion.
Ça, je ne me rends pas compte, moi je connais trop. Alors, on parlait tout à l'heure de photojournalisme, il y a toujours une différenciation qui pour moi est un peu, entre guillemets, ridicule, c'est photojournaliste et photographie documentaire. Et je fais du photojournalisme, mais je fais aussi de la photographie documentaire parce que ce sont souvent des travaux à long terme et donc ça, on rentre dans du documentaire.
Alors justement, par rapport à certains, à certains clichés qui sont très forts, où on est vraiment dans une Afrique qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir, je pense à l'abattoir, je pense à cette naissance, par exemple. Voilà, je parlais de la mort à la vie parce qu'on a vraiment ce sentiment-là. Comment se fait le travail d'approche?
Parce que c'est... Alors, de toute façon, en reportage, le travail d'approche, le travail de préparation est essentiel. Et on n'en parle jamais. Pas souvent, disons. Donc, moi, je travaille avec, depuis quelques années, ça n'existait pas avant, mais c'est venu et ça s'impose. Je travaille avec des fixeurs. Ce sont des facilitateurs, ce sont des intermédiaires qui vont être mon traducteur, qui vont être le guide, qui vont être la personne qui va m'aider si j'ai besoin d'autorisation au niveau... Parce que souvent, c'est quand même compliqué. Il faut des autorisations de pouvoir travailler, et ça va être les personnes qui vont s'occuper de ma sécurité. Là, il y a des photos, j'ai beaucoup travaillé en Somalie, qui reste un des endroits les plus dangereux au monde, donc il faut être sûr de ces fixeurs. Donc tout ça, ça se prépare, c'est des gens quelquefois que je connais depuis des années, et entre nous, entre les journalistes, les photographes qui se connaissent bien, on se transmet les contacts de ces personnes. Et on fait très attention parce qu'il ne faut pas la mettre en danger, donc il faut être sûr de qui travaille avec eux. Il faut aussi être sûr que les gens vont bien se comporter avec eux. Donc ça reste des choses assez confidentielles, mais ce sont eux qui... Alors, ce ne sont pas eux qui vont avoir l'idée du reportage et tout, mais vous leur donnez, vous dites, voilà, je veux faire ça, pour telle raison et tout, comment on fait? Donc, eux, leur travail va être de trouver la solution pratique, la solution logistique, et donc et toute cette préparation est très longue. On va parler de la photographie de l'accouchement. Alors, j'ai fait un travail qui est sur le... Comment vivent 650 à 700 millions de personnes de l'Afrique subsaharienne sans accès à l'électricité? Ce qui est un chiffre colossal, hallucinant. Et c'est le chiffre officiel, hein, c'est pas peut-être plus. Et évidemment, le manque d'électricité touche la santé, l'éducation, la sécurité, l'économie, touche toute la société. Et je sais que j'avais besoin de ce problème de santé. Donc, j'ai travaillé au Bénin pour une raison, puisque le Bénin est un pays qui allait plutôt bien, donc il n'y avait pas d'électricité dans un pays en guerre, ça paraît plus ou moins évident. Mais là, c'est un pays qui économiquement, qui a un changement de président d'un bord à l'autre. Donc, voilà, un pays qui évolue. Et je n'ai pas travaillé dans la brousse. C'est-à-dire, j'ai travaillé, cette photo par exemple est faite à peut-être 40-30 km de la capitale, quoi, c'est pas... Donc c'est pour bien montrer que c'est pas un problème ni d'éloignement, ni de problème de pays chaotique et tout. Et donc j'avais besoin de trouver une scène comme cela, parce que je savais que la scène de l'accouchement sans électricité serait universelle et lisible par tout le monde. Alors, je suis allé dans la région que j'avais fixée avec un ami qui était mon fixeur guide, et j'ai commencé à aller partout dans les cliniques locales où il y avait, où ils pratiquaient des accouchements, chez les sages-femmes. Donc, j'ai rencontré tout le monde et j'ai raconté, voilà, je fais tel travail et tout, et j'aimerais pouvoir assister lors d'un accouchement que vous faites la nuit sans électricité. Après, on a pris les numéros de téléphone de tous ces gens-là. Souvent, vous savez, en Afrique, les gens n'ont pas toujours d'argent, donc ils ont un téléphone, mais ils n'ont pas de crédit pour pouvoir téléphoner. On a acheté du crédit à tout le monde. Et tous les jours, on faisait autre chose, mais vers 5 heures l'après-midi, avant la nuit tombe, en général vers 6h30, on appelait tout le monde. Est-ce qu'il y a une possibilité? Alors, plusieurs fois, il y a eu l'accouchement, mais c'était l'après-midi, tout ça. Donc, pour mon propos, ça ne me servait pas. Et un jour, il y a une des sages-femmes qui a dit « Ah, mais il y a une jeune fille qui vient de rentrer. Je pense que l'accouchement va être cette nuit. » Donc, on est allé, on a rencontré la jeune fille, sa mère qui l'accompagnait. On a expliqué. Quand vous expliquez que vous êtes très direct, les gens veulent ou ne veulent pas, c'est leur droit, mais les gens comprennent. Et sur ce problème d'électricité, comme les gens étaient très en colère, ils ont l'impression d'être des citoyens déclassés par rapport au reste du monde. C'est quelque chose de... Il y a un monsieur dans cette même zone qui m'a dit « Est-ce que vous trouvez normal que lorsque ma femme a accouché il y a 2 mois, la sage-femme avait son téléphone entre les dents pour voir ce qu'elle faisait ?» Donc voilà, je suis arrivé et puis l'accouchement s'est déroulé, j'ai fait les photos et voilà quoi. Mais il y a eu quand même, et ça m'a pris une dizaine de jours avant de trouver, mais je faisais autre chose, hein, je travaillais sur le même thème. Mais j'ai fait 2 voyages pour ce reportage-là. Donc effectivement, une préparation, alors vous pouvez avoir la chance que vous passez dans une clinique le soir et que ça se produise, ce qui arrive aussi. Mais souvent, quand même, c'est de la préparation. Je ne sais pas.
Oui, les choses ne se font pas
ex nihilo
comme ça.
Non.
Alors, vous parliez de préparation, vous parliez de 2 voyages.
Oui.
Donc, sur certains reportages, effectivement, ça peut se...
S'étaler sur plusieurs mois. Voilà. Alors, j'ai commencé ce reportage-là pour le Figaro Magazine. C'est une idée que j'ai peiné à convaincre, parce que lorsque j'ai dit « je vais photographier les endroits où il n'y a pas d'électricité, pas de lumière », on m'a dit « tu es bien gentil, mais qu'est-ce qu'on va voir ?» Donc j'ai dit « bon, faites-moi confiance, docteur ». Et puis après, j'ai eu la bourse de l'AFD, qui était une très belle bourse, pour ce sujet-là, pour ce thème-là. Et là, j'avais une somme d'argent pour produire, continuer à travailler sur ce thème-là. Alors, c'était assez intéressant. Donc, j'ai travaillé, j'ai fait plusieurs voyages au Sénégal, tout. Donc, pour compléter, ça donnait lieu à une exposition à la Maison européenne de la photographie. Et surtout, lors de cette exposition, on a fait un livre. Et le président de l'AFD, M. Rioux, lorsqu'il voyage en Afrique, il distribue ce livre aux ministres qui rencontrent, aux gens, pour continuer à sensibiliser. Donc ça, c'est intéressant quand votre travail a une déclinaison utile.
Oui, d'un seul coup, il y a une...
C'est utile à quelque chose, quoi.
On a parlé d'Afghanistan, on ne peut pas ne pas en parler, puisque vous avez été très présent sur l'Afghanistan.
Oui, j'y suis allé assez souvent. J'ai commencé à y aller en 1985, donc avec les Moudjahidines contre les Russes, pendant l'invasion russe, et j'y suis allé pratiquement, pas tous les ans, mais régulièrement, jusqu'à novembre 2020. Donc je pense que je suis un des rares photographes à avoir travaillé sur une période aussi longue. Ceux qui ont travaillé au début, souvent n'y ont plus travaillé une fois que les talibans étaient au pouvoir. Moi, j'y ai travaillé à toutes les périodes.
Justement, vous avez ce regard de l'intérieur, parce qu'on peut vraiment parler du coup de regard de l'intérieur, mais d'un extérieur.
Ouais.
L'évolution, est-ce que du coup du commandant Massoud à maintenant, est-ce que vous avez l'impression que la situation actuelle était inévitable ?
Inévitable, non, parce qu'il y a eu tellement d'erreurs. Prévisible, oui.
Voilà.
Moi, en novembre 2020, je suis allé à une ville qui s'appelle Maidanchar, qui est à 20 km au sud de Kaboul. Et les talibans prenaient poste après poste dans la région. Donc, ils étaient déjà très près. À partir du moment où il y avait eu un accord avec les Américains, un accord unique avec les talibans, ils leur redonnaient le pouvoir. Ce qui a été incompris, il y a plusieurs choses qui sont pour moi étranges. D'abord, l'impréparation de ce retrait qui est surréaliste. On a vu tous les images des gens qui couraient derrière l'avion américain, qui sont une honte pour l'Occident. Et puis, il y a des choses étranges, le fait qu'aucun des chefs de guerre n'a réagi, ne s'est battu. Il y a encore beaucoup de points d'interrogation. Il y a aussi beaucoup de points d'interrogation. Quel type de société, comment les talibans vont gouverner. Il y a beaucoup de dissensions au cœur même des talibans. Parce que moi, j'étais avec deux groupes talibans en 2019. Un groupe à l'ouest, à Herat, qui lui se battait déjà avec le groupe signataire des accords. Et j'étais dans l'autre côté, à l'est, à la frontière du Pakistan, où là, la base était contre l'accord qui était signé. Donc déjà là, donc on ne sait pas trop qui va prendre le dessus. Il y a beaucoup, beaucoup d'incertitudes. Donc on va voir tout ça. Il y a l'incertitude aussi des pays autour, c'est-à-dire bon, le Pakistan, là il n'y a pas d'incertitude, on sait que c'est eux qui sont à la manœuvre, mais l'Iran visiblement a dû passer des accords parce que la communauté chiite Hazara n'a pas eu de problème, il n'y a pas eu de combat, alors que normalement pour les talibans, les chiites sont des hérétiques, donc ils en ont massacré beaucoup avant. Il y a beaucoup d'incertitudes. Il y a beaucoup, les Chinois aussi. Il y a beaucoup de questions. Alors, est-ce que les talibans sont capables de gouverner? Est-ce qu'ils vont pouvoir contenir Daesh et Al-Qaïda, l'EI Al-Qaïda qui sont là? Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'incertitudes. Ce qui est sûr aussi, c'est que nous, on n'a pas été brillants, mais les différents gouvernements afghans ont été...
Nullissime.
Ah, pas nullissime, sont des crapules. Ouais. C'est-à-dire, on parle du chiffre de 3400 milliards de dollars investis. Au départ, officiellement, on a dit 1000, 2000, mais a priori, ça serait ce chiffre-là. Et 40% auraient été détournés. Donc, et on a poussé des présidents qui, évidemment, étaient pour... nous, des gens fréquentables, parce qu'ils avaient vécu aux États-Unis, ils travaillaient aux États-Unis, donc on a toujours cette habitude de prendre des gens qui nous correspondent, avec qui on peut communiquer, s'emboîter, mais qui ont détourné un point. Alors, les chefs de guerre, il y a plusieurs questions. Je crois que tout le monde en avait marre de ces gens à la tête du pays qui détournaient tout l'argent. Les gens ont marre de la guerre. Ça fait 40 ans. Il y a une chose que l'on oublie sur l'Afghanistan, c'est que les deux choses majeures qui sont passées dans le monde ces 40-50 dernières années ont pris naissance en Afghanistan. C'est-à-dire une des conséquences essentielles de la chute de l'Union soviétique et du communisme a été la défaite de l'armée russe en Afghanistan. Elle se retire en février 89 et le mur tombe en novembre 89. Alors, bien sûr, la défaite de l'armée russe a été beaucoup aidée par les États-Unis qui, dès que les Russes ont envahi, ils ont été ravis, ils ont dit ça, on va leur faire leur Vietnam. Et donc, il y a eu beaucoup d'armes données, beaucoup d'argent pour faire tomber les Russes, hein, d'où Ben Laden qui a été aidé à l'époque et tout. Mais une fois que les Russes, la chute du mur... On a laissé les Afghans se débrouiller tout seuls, on est parti, on ne les a pas aidés ni économiquement ni structurellement, et la guerre entre eux a commencé. Et la deuxième chose, c'est la montée de l'islamisme radical. Ça s'est passé aussi en Afghanistan. Et aujourd'hui, on a réglé le problème, du moins la raison essentielle que les Américains avaient... d'envahir aussi, parce qu'ils ne disent pas envahir, mais quand même de venir en Afghanistan, c'était parce que les talibans ne leur avaient pas donné Ben Laden. Une fois que Ben Laden a été tué, on a commencé à penser qu'il fallait partir, et là, on les laisse à nouveau seuls. C'est dur pour les populations. Après, aujourd'hui, ce qui est très dur, c'est qu'il y a, en 15-20 ans, pas de paix, mais de quand même d'une paix
relative.
Il y a toute une jeunesse qui a été éduquée. Il y a plein de, surtout dans les villes d'Afghanistan, il y a quand même partout dans le monde, c'est comme cela, mais c'est plus marqué en Afghanistan. Il y a deux Afghanistan, il y a la ville et les campagnes. Et à ce moment-là, toute cette jeunesse, surtout les femmes, mais aussi toute la jeunesse éduquée, quelle va être leur place ? Quand j'étais là, en novembre 2020, je suis allé à l'université de Kaboul, vous aviez toutes ces jeunes femmes, les cahiers sous le bras, souriant, marchant, même étant sur des pelouses avec des collègues masculins, tout ce qui est toute une jeunesse normale, aujourd'hui tout ça se ferme. Donc, alors, il faut espérer une chose, et j'espère que le monde occidental et les femmes occidentales vont bouger. Je pense que les talibans n'ont pas réalisé qu'entre 96, moi j'étais en 96 lorsqu'ils sont rentrés à Kaboul, et maintenant le monde a beaucoup changé. Il y a eu MeToo, il y a eu tout cela, donc je pense que les femmes occidentales vont manifester contre ce qui va se passer pour les femmes en Afghanistan, et ça va beaucoup peser, parce que le problème qu'ont les talibans, ils ont eu déjà ce problème-là avant, c'est qu'ils n'ont jamais été reconnus par la communauté internationale. Et leur but aujourd'hui, ils veulent être reconnus, donc ils vont être obligés de faire un peu attention. S'il n'y a pas de pression, ils feront tout ça en douce, mais si le monde entier commence à manifester tout, les dirigeants ne pourront pas reconnaître un pays comme ça. Et je pense qu'il y aura un grand rôle des femmes dans le monde entier pour pousser à ce que ça ne soit pas un drame à huis clos.
Souhaitons-le. Vous parliez des fixeurs tout à l'heure,
oui,
qui étaient indispensables,
oui,
au travail. Là, justement, avec cette espèce de débâcle,
oui,
qu'on a pu voir, tous les gens qui ont travaillé avec...
Ouais. Nous, les gens, parce que les trois dernières fois, je suis allé pour le Figaro Magazine, où on a réussi à faire partir les fixeurs et leurs familles, sauf un, c'était assez étrange, qui, au moment de partir, n'a plus voulu. Ouais. Il a demandé à partir.
Est-ce qu'il peut y avoir des pressions familiales ?
Je ne sais pas. On n'a pas eu plus d'espoir. Parce que c'est compliqué de faire partir les gens. Et lui, c'est au moment où on est mieux. Tout est compliqué. S'exiler, c'est compliqué. Techniquement, les faire sortir d'Afghanistan, c'était compliqué. Et donc, voilà, lui, c'est son choix. Je n'en connais pas encore la raison. Mais bien sûr, il y a plein de gens qui sont restés derrière. Et on voit, les images commencent à sortir. Des journalistes et tout qui ont été tabassés par les talibans. Donc, il va se passer beaucoup de choses assez terribles.
Ici, c'est les Afriques.
Ouais.
Voilà, c'est à Chabeuil. Venez voir l'exposition, bien sûr, ça c'est évident. On se plonge dans une autre réalité. Mais les réalités africaines. Donc merci beaucoup Pascal d'avoir pris ce temps.
Merci à vous.
Merci
à vous, et surtout, bien, si vous avez du temps, venez voir les expositions, parce que c'est un festival formidable, et tout ça tenu, réalisé par des bénévoles, bravo quoi, mais vraiment bravo. Et la photographie est encore très vivante.
Les rencontres de la photo de Chabeuil, 20e édition 2021. Vous écoutiez Pascal Maître, donc l'invité d'honneur de cette 20e édition. Effectivement, comme il le disait, venez voir son exposition, mais venez voir les expositions. Vraiment, venez, les photographes sont là pour vous partager leur passion. Nous, on fait une pause jusqu'à 13h30, et à partir de 13h30 jusqu'à 16h, on va dérouler l'après-midi autour du fil rouge du voyage, et avec des portraits d'expo, portraits de photographes, et une table ronde pour finir cet après-midi. Et vous découvrirez, donc, on va vous faire découvrir quelques photographes autour de ce fil rouge. Merci beaucoup et à tout à l'heure.